Vous écoutez RTL. Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI.
Invité aujourd'hui, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI, désormais tous les dimanches de 12h30 à 13h30. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Ministre en effet de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Pour vous interroger ce matin, Christophe Jacubizine, bonjour. Vous êtes chef des services politiques de TF1 et de LCI. Et Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine. Et Benoît Galeret, tout à l'heure, de RTL et LCI, viendra vous dire. Quel écho ont eu vos déclarations pendant ce grand jury sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, rappelez-nous, bonjour d'abord, comment fait-on pour participer?
C'est tout simple, on tweet avec le hashtag Le Grand Jury, moi je surveille tout ça et puis je viendrai en effet vous en proposer un condensé en fin d'émission.
À tout à l'heure, Benoît Galeret, à la toute fin de l'émission, j'ajoute tout de suite, mais on en reparlera parce que vous nous direz quel rôle majeur ils auront auprès de vous dans les semaines qui viennent. Vous êtes venu accompagné d'une classe de lycéens de terminale de Clichy-sous-Bois et encore une fois... De lycée professionnel, et on en reparle tout à l'heure. On va parler bien sûr de vos dossiers, transport, énergie, écologie, très important, mais d'abord, on va s'arrêter sur ce défi considérable qui est lancé à l'Europe par l'afflux de réfugiés. Ségolène Royal, vous êtes ancienne candidate à la présidentielle, vous êtes une femme politique de premier plan. Il se trouve que dans cette crise, s'est imposée une autre femme de façon... on va dire, qui a imposé son leadership dans ce dossier, c'est Angela Merkel. Est-ce que ce matin, vous nous dites bravo Angela Merkel pour le rôle qu'elle a joué dans ce dossier?
Oui, bien évidemment et sans hésitation, bravo à Angela Merkel. Ce qui prouve que sur ces sujets-là, on doit affronter ces difficultés au-delà des clivages politiques. Et quand je vois dans le camp de la droite en France beaucoup d'approximations, je leur dis de regarder vers Angela Merkel, qui fait partie de leur famille politique, parce que l'Europe est confrontée pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale à l'une des plus graves crises humanitaires, et même qui est aussi une crise de sécurité, hein, on le voit bien. Et par conséquent, nous devons faire face... tous ensemble, c'est ce que fait la France, en solidarité avec les autres pays européens. Il y a des difficultés, hein, on le voit bien, il y a des fortes dissensions.
On va en reparler d'ailleurs.
Ce qui fait que la France, l'Europe a un double défi.
Vous saluez effectivement la coalition allemande, qui est très puissante et qui a joué un rôle dans cette mobilisation majeure de l'Allemagne. Mais est-ce que, aussi, le point titre cette semaine, bravo Angela Merkel, si seulement elle était française, est-ce qu'il manque en France une personnalité de cette trempe qui pourrait ainsi emmener tout le monde, les partis politiques, les églises et évidemment la société civile dans ce mouvement de solidarité qui est sans équivalent entre l'Allemagne et la France?
Je ne crois pas qu'il faille entrer dans une compétition, dans une comparaison entre les différents pays européens ou entre les différents leaders européens. Pourquoi ? Parce qu'on voit aussi des dissensions au sein de l'Europe. Et donc, c'est cette épreuve humanitaire met aussi en danger l'unité de l'Europe. Donc il y a un double travail à faire pour rassurer aussi nos populations, hein, qui regardent aussi avec étonnement, parfois avec inquiétude,
vous
ce qui est en train de se passer.
Vous les comprenez ?
Ce que j'observe, c'est que au fond, au sein au sein de la même personne, il y a à la fois un mouvement de solidarité, de générosité, qui est conforme à l'histoire de la France, à l'histoire de l'Europe, et en même temps, bien évidemment, des Français qui sont en situation de difficulté et qui se disent, et parfois dans le même élan, hein, au sein de la même personne, et qui se disent, bon, est-ce que le fait d'être confronté à une crise aussi forte ne va pas conduire à ce que moi je sois oublié avec mes problèmes? Et je voudrais dire à tous ces Français, et je voudrais dire à tous ces Français que le gouvernement n'oublie pas, bien évidemment, tous les Français qui sont en difficulté, qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de santé, et que ces Français-là doivent se dire que la France est suffisamment forte, puissante et suffisamment bien organisée, comme l'a démontré encore à l'instant le ministre de l'Intérieur, pour à la fois... Pardon, je termine ma phrase parce que c'est quand même des sujets graves, pour à la fois être confrontés et régler ce problème. Nous sommes engagés à accueillir 24 000 personnes en 2 ans. Je rappelle que pendant la crise des boat people en 79, nous avions accueilli 128 000 personnes. Donc nous devons avoir la capacité de faire cela, tout en continuant bien évidemment à nous atteler, et c'est la priorité du gouvernement, aux problèmes que rencontrent les Français.
Mais il y a un problème de représentativité politique. Il y a un sondage paru hier chez nos confrères de Libération qui dit que 49% des Français sont opposés à l'accueil de réfugiés. En face de cela, il y a un relatif consensus politique, à l'exception évidemment du Front National. Que pensez-vous de ce décalage quand même entre cette unanimité d'un côté et de l'autre côté, ces Français qui sont très divisés ?
Mais comme je viens de le dire à l'instant, observez que ces Français qui sont apparemment très divisés, souvent sont traversés par ces deux mouvements, ces deux courants. Et moi, je trouve admirable que les Français tendent la main, que les communes, au-delà d'ailleurs des clivages politiques, soient capables de se positionner pour accueillir, donc en 2 ans, 24 000 personnes, puissent se mobiliser. Et en même temps, je le redis comme je viens de le faire à l'instant, un certain nombre d'inquiétudes, bien évidemment, avec la force des images qui frappent, bien évidemment, ces images de la misère et de toutes ces familles qui fuient la mort, tout simplement, qui fuient les persécutions. Donc on ne peut être qu'interpellé, et en même temps, il faut que les Français sachent que le gouvernement est à la tâche et que le travail sur les autres priorités, que sont le combat contre le chômage, contre la vie chère,
il
contre toutes
le
les difficultés,
dites,
continue bien oui. évidemment,
Christophe
et nous
Jacques
ne sommes
cuisine.
Pas bien, nous sommes suffisamment forts et déterminés pour régler ces deux problèmes en solidarité avec l'Europe.
Madame la ministre, vous avez cité à deux reprises ce chiffre des 24 000 réfugiés que la France s'engage à accueillir. Oui. C'est un accord franco-allemand qui doit maintenant être validé au niveau européen. Ce chiffre, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, il vient finalement du système de quotas qu'on accepterait. On va prendre 20% des 120 000 migrants annoncés par l'Union européenne. Or, on sait d'ores et déjà que ce chiffre de 120 000 est complètement dépassé. Même en 2-3 jours, le Juncker a proposé 160 000. On sait que les Allemands vont recevoir 800 000 demandes de réfugiés politiques. Concrètement, Madame Royal, ça veut dire que si on devait revoir ce chiffre à la hausse, est-ce que ça veut dire que nous aussi, puisqu'on a accepté de prendre 20% des migrants, on devra peut-être accueillir 48 000, 100 000 réfugiés politiques si on respecte cet engagement qui est le nôtre d'accueillir 20% des migrants, de réfugiés politiques en Europe ?
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas déconnecter cette sorte de comptabilité à la question du règlement définitif de ce problème. C'est-à-dire, comment tarir à la source ces migrations de la peur et ces migrations de la misère. Et donc la question est de savoir comment est-ce que des solutions politiques interviennent rapidement pour que dans les pays qui sont fuis par les citoyens de ces pays puissent être rétablis la sécurité et la sérénité. Et donc les deux sujets...
Finalement, vous êtes assez réaliste et honnête. Vous nous dites, effectivement, ce chiffre sera dépassé si, rapidement, on ne s'attaque pas à ce problème politique qui est de la guerre en Syrie, par exemple.
Par exemple, exactement. Mais tout le monde est conscient de cela. Et l'Europe est attelée à ce problème. L'Organisation des Nations Unies également. Ça n'est pas une vie non plus pour ces personnes, ces familles qui fuient la mort. Et d'ailleurs, j'entends de leur part, pour la plupart d'entre eux, l'envie de revenir dans leur pays. Et donc, c'est à cela que la communauté internationale doit s'atteler. Donc, il y a d'un côté la question de l'urgence, de l'humanité, de la main tendue, mais de l'autre, l'implication très forte que nous devons avoir pour régler le problème diplomatique, le problème politique, le problème géostratégique qui doit absolument être résolu.
Y compris par l'envoi de troupes au sol, pardon. Il y a un sondage ce matin dans le journal du dimanche ou dans la presse dominicale qui dit que les Français sont majoritairement favorables à une intervention au sol, à condition bien sûr qu'elle prenne, que ce soit dans un cadre onusien.
En Syrie.
En tout cas, le résultat de ce sondage prouve que les Français ont parfaitement compris la dimension du problème. Ils ont parfaitement compris que la question de ce drame humanitaire doit être limitée dans le temps et que la question principale, c'est le rétablissement de la sécurité dans les pays d'origine.
Vous êtes très proche des positions de Nicolas Sarkozy jeudi soir sur TF1, puisque vous dites, au fond, tout à l'heure, vous avez dit, c'est intéressant, que sans doute leur migration est provisoire. Donc vous aussi, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on réactive le statut de réfugié de guerre, comme le propose Nicolas Sarkozy, et que, à terme, si on arrive à résoudre ce problème politique en Syrie, ces réfugiés soient invités à retourner dans leur pays.
Écoutez, ne mélangeons pas tout. Il y a beaucoup d'approximations dans les propos que vous venez d'évoquer, beaucoup d'approximations, d'abord parce que ce statut existe déjà, donc ne nous alignons pas, et mon propos n'est absolument pas de s'aligner sur ces thèses. Au contraire, ce que veut le gouvernement, c'est de tenir fermement les deux caps, c'est-à-dire l'application du principe international du droit d'asile en coordination avec les autres pays européens et d'autre part la participation à au règlement politique, diplomatique et géostratégique du conflit. La France a déjà envoyé des forces aériennes d'observation. S'il faut aller plus loin, ça se discute aussi au niveau...
Vous n'avez pas répondu là-dessus. Vous y êtes favorable? Vous êtes favorable ou pas?
Écoutez, moi, ce que d'abord, c'est le rôle du ministre de la Défense, c'est le rôle du gouvernement. Les options, bien évidemment, sont ouvertes avec les difficultés que vous connaissez, parce que pour l'instant, ce n'est absolument pas décidé. Les interventions au sol, il faut être sûr du résultat quand il y a des interventions au sol.
Et on vous sent plutôt favorable à cette solution, quand
même. Mais rien n'est fermé, rien n'est fermé. Et en même temps, ce sont des décisions extrêmement lourdes qui doivent être prises dans la coordination internationale. Pour l'instant, cette décision n'est pas prise, mais et puis c'est pas la seule non plus. Ce n'est pas non plus le seul élément d'intervention et ce n'est pas non plus le seul élément de nature à obtenir un règlement géostratégique du problème. Il y a aussi les négociations diplomatiques, il y a l'intervention des grandes puissances hors européennes, il y a l'intervention des États-Unis d'Amérique, le poids diplomatique, il y a les interventions diplomatiques des pays du Golfe. Donc il y a tout cette géostratégie qui doit être mise en mouvement, qui doit être accélérée. Elle l'est déjà d'ailleurs, et la question de l'envoi de troupes au sol, c'est une question qui n'est pas encore posée, mais bien
qui,
évidemment,
selon vous, devra l'être dans ce cadre collectif.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est un des éléments sur lesquels chaque fois qu'il y a des interventions aériennes, il y a en même temps la question qui est posée. Ça relève du ministère de la Défense et bien sûr du chef de l'État qui est le chef des armées. Mais il est bien évident que rien n'est à bout.
Une question concrète sur l'accueil de ces réfugiés. Vous dites que les Français se posent des questions. Les réfugiés aussi, comment vont-ils être accueillis? Par exemple, est-ce que vous êtes favorable à ce que les enfants, nombreux, qui arrivent dans le cadre de cet accord, soient scolarisés immédiatement dans nos écoles, sans attendre évidemment les mois qui vont s'écouler avant qu'ils n'aient ce statut de réfugié?
Il y a des règles qui s'appliquent sur la scolarisation des enfants, et donc elles doivent être appliquées, je crois qu'on ne peut pas rentrer dans ces comptabilités. Les choses sont en train d'être mises à plat, vous savez. Donc, je crois que sur ces sujets-là, il faut se garder de toute déclaration intempestive ou schématique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a réuni hier l'ensemble des collectivités locales qui sont disposées à accueillir des familles avec des enfants. Et donc, il faut que ces sujets soient réglés, non seulement en fonction des règles, mais aussi en fonction de la capacité d'accueil des écoles. Oui, il est bien évident que le droit d'accès...
Donc ça n'est pas si...
Il est bien évident que la meilleure façon pour intégrer et pour pacifier les familles, pour les sécuriser, c'est bien évidemment l'éducation.
Et quand des maires comme Xavier Bertrand ou François Baroin disent « Nous ne pouvons pas accueillir de réfugiés parce que nos capacités d'accueil sont déjà saturées », vous les comprenez ?
Je pense que malheureusement, ils ont essayé d'exploiter de façon politicienne et péremptoire des sujets qui méritent autre chose que ces déclarations violentes, brutales. Et d'ailleurs, j'observe que depuis, ils ont changé d'avis.
Vous observez que Xavier Bertrand a changé d'avis sur l'accueil ?
Oui, il a changé d'avis.
Dans sa commune, les maires ont déclaré qu'ils n'avaient pas de place d'urgence n'en ont pas davantage aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur...
Vous allez voir dans les semaines qui viennent.
Vous pensez qu'ils vont revenir sur leur décision avec l'aide de l'État ?
Je le pense.
Pourquoi ?
Parce que je crois que ça fait partie d'une dynamique, ils vont se ressaisir. Qu'à un moment, ils vont se rendre compte que
ça vous choque, d'ailleurs,
l'exploitation politicienne, que, je le répète, d'un sujet comme celui-ci, ces déclarations précipitées, intempestives, n'ont pas de sens dans un pays comme la France, qu'il y a du droit international, qu'il y a des négociations entre pays européens. J'observe d'ailleurs que d'autres, au sein de la même formation politique, ont eu des déclarations totalement différentes, beaucoup plus posées, beaucoup plus sensées, beaucoup plus responsables, et par conséquent, je crois que là aussi, l'esprit républicain, sans jeu de mots, va l'emporter.
Ségolène Royal, on va en venir à la COP21. C'est le grand rendez-vous de l'année. Ça vous fait sourire parce que c'est vrai
que c'est un
dossier
événement
sur lequel vous êtes en première ligne. François Hollande, cette semaine, a deux fois de suite manifesté son inquiétude sur la capacité de financement. Il faut 100 milliards pour réussir cette COP21. Il a dit, par exemple, qu'il entendait, ça c'était en conférence de presse, des déclarations parfois fracassantes, mais qui ne sont pas toujours sonnantes et trébuchante. Autrement dit, il faut mettre l'argent sur la table. Quand est-ce que lui, François Hollande, comme l'Allemagne l'a fait en juin dernier, annoncera que effectivement la France remet au pot pour arriver à ce financement de 100 milliards? C'est urgent.
Mais de quoi s'agit-il dans ces 100 milliards? C'est pas de l'argent des États, c'est pas de l'argent des impôts des gens, c'est de l'argent des grandes institutions financières, notamment de la Banque mondiale, c'est de l'argent des grandes banques, c'est de l'argent des grandes compagnies d'assurance. Il y a d'un côté le fonds vert, là, qui est une contribution des États, dans laquelle la France a déjà mis sa contribution, comme l'ensemble...
L'Allemagne a mis 2 milliards supplémentaires en juin dernier, et on attend que France fasse de même.
Écoutez, c'est pas non plus la course à l'échalote sur qui mettra
plus. Non, mais c'est important parce que ça peut avoir un effet de levier.
Attendez, la question principale, c'est pas la course à l'échalote sur qui mettra combien au pot, etc. La question principale, c'est une question d'abord de survie humaine. Nous serons 9 milliards sur la planète en 2050 et nous vivons comme si nous avions 3 planètes. Et donc la question du sommet de Paris sur le climat, c'est tout simplement la question de la survie de l'être humain sur la Terre.
On a du mal à comprendre.
Donc les enjeux sont considérables.
Quel type d'accord on attend? Parce que pour les gens qui nous écoutent, je crois que c'est assez obscur, et pour moi aussi. Quel type d'accord on attend en décembre? Qu'est-ce qui fait qu'on va passer effectivement d'une consommation de 3 planètes, vous disiez, à une consommation plus raisonnable, ou en tout cas l'utilisation d'énergie moins dévoreuse en matière première? C'est quoi l'accord que vous attendez, où vous direz le 12 décembre, on a réussi?
Alors, on attend 3 choses dans l'accord. D'abord, l'accord de tous les pays du monde, qu'ils vont en effet s'engager sur une autre forme de développement. La France l'a fait, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et nous avons voulu être exemplaires parce que, justement, nous accueillons la conférence climat. Et nous sommes le seul pays à avoir traduit nos déclarations orales dans les actes.
Il y a encore des pays qui ne veulent pas s'engager dans cette voie?
Il y a encore des pays, en effet, qui bloquent. Il y a encore des pays. Mais je ne vais pas les citer, parce que moi, je veux qu'ils soient dans une dynamique positive.
Le Canada, l'Australie, on va les citer, nous. Voilà.
Mais en même temps, ce sont de grands pays. Et moi, je suis optimiste, parce que je pense que ces grands pays ne voudront pas être responsables de l'échec de la conférence sur le climat. Parce que, comme le disaient les habitants d'un État insulaire, on va décider à Paris qui va avoir le droit de vivre et qui va avoir le droit de mourir. Parce que le niveau de la mer augmente 3 fois plus vite qu'il y a un siècle. Parce que 90% des réserves des poissons ont disparu. Parce que tous les ans, il y a la diminution de l'équivalent d'un quart de la France en forêt primaire. C'est-à-dire avec une destruction de la biodiversité, des animaux, des plantes et donc de l'être humain. Il faut bien comprendre que nous, personnes humaines, nous faisons partie de cette chaîne du vivant. Et quand on nous dit, mais pourquoi vous vous occupez des animaux alors que les gens vivent dans la pauvreté, il faut bien comprendre que quand le vivant se dégrade, quand la nature se dégrade, quand il y a des prédateurs qui consomment trop de nature, qui détruisent les forêts, qui polluent la mer, à ce moment-là, au bout de cette chaîne du vivant, ce sont les êtres humains qui sont gravement fragilisés et menacés.
Mais ce constat-là, comment se fait-il qu'il ne soit pas partagé? Pourquoi y a-t-il des pays qui ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est parce qu'ils ne vous croient pas quand vous dites, vous et les organisateurs de la conférence, qu'il y a danger, qu'il y a urgence? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se contraindre? Pourquoi ça coince?
Ça coince parce qu'il y a des lobbies très forts. Quels lobbies? Les lobbies du pétrole. Il est évident, aujourd'hui on le sait, que pour réduire le réchauffement climatique, il faudrait renoncer aux ressources pétrolières et aux ressources en charbon.
Vous pensez qu'il y a des compagnies pétrolières qui sont à la manœuvre?
C'est évident. Pourquoi est-ce qu'on attend depuis... Vous savez, COP21, ça veut dire 21 années. Ça fait 21 années qu'on discute. Alors maintenant, il faut passer à l'action, il faut passer à la détermination et il faut passer à l'accord.
Vous disiez 3 conditions, l'ensemble des pays?
L'ensemble des pays. Deuxièmement, les solutions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour réduire le réchauffement climatique? Déjà, on passe à l'après-pétrole, on prépare l'après-pétrole en montant en puissance sur les énergies renouvelables. C'est ce que fait la France. D'ailleurs, hier, avec les nouvelles interconnexions du nouveau champ éolien qui a été inauguré en Champagne-Ardenne, ce sont 6 millions de Français qui, aujourd'hui, sont alimentés par l'énergie éolienne.
Avec beaucoup de retard sur l'Allemagne.
Oui, mais nous sommes en train, et les entreprises des énergies renouvelables ont déclaré d'ailleurs hier, nous sommes en train de rattraper grâce à la loi de transition énergétique qui prévoit un tiers d'énergie renouvelable dans ce qu'on appelle notre modèle énergétique. Une diminution de 40% des gaz à effet de serre, ça veut dire transférer vers d'autres énergies renouvelables, géothermie, biomasse, etc. L'utilisation des énergies fossiles et surtout économiser l'énergie. Car la première l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc la perspective, c'est l'économie de 50% de la consommation d'énergie.
Le troisième point.
Et le troisième point, c'est les engagements financiers, les transferts de technologie. Pourquoi ? Parce que regardez là, je reviens d'une tournée en Afrique, en Afrique australe, où il y a à la fois du soleil, où il y a de la biomasse, où il y a du vent. Et ces pays n'ont pas eu accès aux technologies. Et donc, il faut absolument les aider à faire le saut technologique, c'est-à-dire qu'avec leur croissance, ils n'utilisent pas d'énergie.
Et ça, ce sera en effet grâce aux 100 milliards dont je parlais tout à l'heure. Et je vous repose la question, est-ce que François Hollande, devant par exemple l'Assemblée générale des Nations unies, à New York dans 15 jours, donnera le chiffre qui permettra d'emmener la dynamique financière qu'il attend, puisqu'il l'a dit, il y a un risque d'échec. Est-ce que c'est là où il va nous dire combien la France, elle, remet sur la table ? C'est important, c'est crucial pour les organisations.
C'est très important.
Et les pays pauvres qui attendent cet argent.
Oui, mais comme je viens de vous le dire, il y a d'un côté le fonds vert de 10 milliards, là qui sera, à mon avis, rapidement mis en place, parce que c'est l'ensemble des pays qui doivent mettre au pot, mais avec un retour sur investissement. Je veux dire par là que ces moyens financiers qui sont mis pour développer des emplois dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des économies d'énergie. Non, mais c'est très important,
Si les Français... Mais la question que je pose, vous voulez pas le dire avant François Hollande. Vous voulez pas
ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une question qui mérite quand même plus d'une phrase. Et je ne veux pas que les Français qui nous écoutent se disent « Ah ben, on va encore payer avec nos impôts des aides financières, on ne sait pas où ça va. » C'est pas ça du tout. Ce qui est très original dans la question de la croissance verte et dans la question de la conférence sur le climat, c'est que la mobilisation de ces moyens financier doit permettre aux entreprises d'investir. Je pense à l'électrification de l'Afrique, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire investir massivement dans l'énergie solaire. Donc ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça crée du développement. En même temps, protéger les pays contre les dégâts du dérèglement climatique. Par exemple, il y a d'énormes travaux à faire pour que les villes qui sont sur le littoral, il y a 20 mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants sur le littoral qui est aujourd'hui menacé par la montée de la mer.
Ce sont des sujets que vous portez et qui n'ont pas encore reçu, on va dire, l'enthousiasme populaire. Vous êtes chargé de la mobilisation de la société civile. On a le sentiment que la mayonnaise ne prend pas, Christophe Jacubizine.
Oui, est-ce qu'on a l'impression qu'on manque un peu d'une voix? En 2002, on avait Jacques Chirac qui nous disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». On n'entend pas quelqu'un aujourd'hui porter, pour que ça mobilise vraiment les Français, cette conférence, porter cette action, cette nécessité d'effectivement de changer notre planète. Pourquoi ?
Mais pas du tout. Mais là, il y a eu le lancement, la présidence de la République, le chef de l'État a voulu cette conférence climat. Aucun pays ne voulait accueillir la conférence climat parce qu'on sait que c'est difficile. La France s'est positionnée parce que la France a quelque chose à dire au reste du monde par rapport à un enjeu humanitaire comme celui-ci.
Mais 3 jours avant de faire la conférence, il nous dit lundi à sa conférence de presse que le risque d'échec est grand. Donc mais, c'est pas très mobilisateur quand même.
Il faut les deux. C'est-à-dire il faut à la fois dramatiser pour bouger les énergies et en même temps il faut avoir confiance. Regardez les jeunes qui sont ici. C'est pas on ne dépend pas d'une voix, on dépend de millions de voix. Et je puis vous dire que ces millions de voix et ces forces vives sont mobilisées. La preuve, il y a eu récemment à Paris la réunion de 2000 chercheurs du monde entier sur la question climatique. Ça ne s'était jamais fait, c'était absolument exceptionnel. Ensuite, il y a eu la réunion de centaines d'entreprises engagées dans la transition énergétique qui, pour la première fois de leur histoire, ont demandé un prix du carbone pour avoir des orientations claires en termes d'investissement. On a une montée en puissance sur les investissements dans
vous
le
monde. Vous ne répondez pas tout à fait à notre
mondiale.
Question, Ségolène Royal. C'est
qu'effectivement, vous êtes enfermé dans un schéma.
Non, vous déclinez des actions. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions, dites-vous d'ailleurs régulièrement, qui sont visibles et que vous allez constater sur le terrain. Mais il manque... Alors c'est peut-être un problème d'incarnation, vous pouvez peut-être le lancer, vous, l'appel. L'appel à la population française pour qu'ils se sentent concernés par cette COP21.
Mais c'est ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train d'être mobilisé. C'est peut-être pas ce qui se passe traditionnellement ou schématiquement comme vous le souhaiteriez.
Vous ne pensez pas que les Français se disent les objectifs sont formidables, mais nous sommes en crise, ça n'est pas la priorité, ça va encore nous coûter de l'argent.
Au contraire. les Français commencent à comprendre que la croissance verte, ça rapporte. Et les entreprises commencent à comprendre que la croissance verte, ça rapporte. C'est-à-dire que l'investissement dans, dans l'énergie, ça rapporte, ça crée des emplois. Le traitement des déchets et l'objectif de la loi qui impose maintenant de diminuer par deux le montant des déchets mis en décharge, qui va permettre la valorisation des déchets, augmente considérablement le chiffre d'affaires des entreprises françaises spécialisées dans le traitement des déchets, dans le traitement de l'eau. J'ai inauguré il y a trois jours une formidable usine à Strasbourg qui fabrique du biogaz à partir des boues de stations d'épuration de l'eau. Qui aurait pu penser qu'un jour, on fabriquerait, on fournirait l'électricité à 5 000 foyers grâce aux boues des stations d'épuration.
Alors, Ségolène Royal, vous parlez
Nous sommes en train de vivre une mutation technologique et industrielle majeure, c'est-à-dire un vieux système qui s'écroule, qui était basé sur les énergies fossiles, un nouveau système qui est en train d'émerger. Ma responsabilité de ministre du Développement durable et de l'énergie, c'est de pousser en avant l'émergence de ce nouveau modèle que les Français ont parfaitement compris, parce que souvent ils sont en avance sur les médias, ils sont en avance sur les responsables politiques
alors,
nationaux.
Alors très bien, on fera notre examen de conscience sur ce sujet.
Sont en avance, mais c'est vrai, regardez ce qui se passe.
C'est le pape.
Exactement.
Et est-ce qu'il viendra vous allez l'inviter à la COP21?
Il sera à New York déjà fin septembre. Il sera peut-être à la COP21. En tout cas, il a déjà produit un texte, une encyclique absolument exceptionnelle, qui a mobilisé à travers le monde, qui a levé les foules. À Manille, par exemple, qui a été très durement frappé par le dérèglement climatique avec des tornades qui ont fait des centaines de morts. Il a rassemblé 6 millions de personnes. Donc, vous voyez, la question du climat, elle concerne tout le monde et notamment ceux qui souffre le
ce
plus
serait quand
des
même une
impacts
belle surprise,
du dérèglement climatique.
Si il est à une heure de Paris.
Et en fait, sur la question de la mobilisation,
le 30 novembre, un mot, vraiment le dernier mot.
Mais écoutez, je voudrais quand même rendre hommage à ces centaines de collectivités territoriales qui s'engagent. Moi, j'ai lancé un appel à projet sur les territoires à énergie positive. Et quand vous dites que les Français ne sont pas mobilisés, mais au contraire, je peux vous dire, apporter la preuve du contraire dans tout ce qui se passe dans la production d'énergie locale et dans les transports propres.
Alors, il reste un tout petit peu de temps avant la pause. Vous avez parlé de Strasbourg. C'est vrai que, pour le coup, concernant la fermeture de Fessenheim, vous avez semé le trouble par une déclaration qui a été précisée le lendemain, voire rectifiée. Et le gouvernement annonce maintenant un décret pour le début de l'année qui va enclencher la fermeture de la centrale avant 2017. Est-ce que, dans le texte qui sera publié début janvier, le nom de la centrale de Fessenheim sera précisé? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, il n'y a plus aucune question, aucune ambiguïté sur la fermeture de Fessenheim avant 2017?
Il n'y a plus aucune ambiguïté.
Ce sera
Mais
Fessenheim.
De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'appliquer la loi de transition énergétique que j'ai fait voter et qui a pour la première fois donné une base légale à la fermeture de Fessenheim, ce qui n'existait pas avant.
Alors, c'est vraiment, et donc le processus. Je vous laisse et on nous laisse le temps de faire une petite pause et on se retrouve juste après. Il est 12h58. Les infos dans un instant et puis on se retrouve avec vous, Ségolène Royal, devant le grand jury. À tout de suite.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI.
Invité aujourd'hui, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI, et Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine. Ségolène Royal, la question qu'on vous posait juste avant la pause, c'est la suivante. Et on va essayer d'être assez bref dans cette deuxième partie pour aborder tous les sujets de votre ministère qui viennent. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la centrale de Fessenheim qui doit fermer? Sachant d'ailleurs que c'est l'opérateur EDF qui doit formellement l'annoncer et le décider. Avant 2017, conformément à la promesse de François Hollande.
Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est la seule hypothèse aujourd'hui qui est sur la table. Et ce qui est nouveau, et la raison pour laquelle ce sujet ne mérite aucune polémique, parce que ce sont des sujets compliqués, délicats, difficiles, et donc les polémiques n'ont aucune raison d'être.
C'est vous qui l'avez suscité, non, par une déclaration.
Absolument pas, ce sont les réactions.
Qui au minimum a
absolument
été pas compris
pas.
Par tous les écologistes.
Eh bien, écoutez, qu'ils écoutent ce qui se passe, et c'est pas par des injonctions ou des mots d'ordre combinatoires, et une centrale nucléaire ou un réacteur nucléaire ne se ferme pas en tournant un bouton. Il se ferme en respectant les règles. Ces règles, le gouvernement les a fait voter dans le cadre de la loi de transition énergétique. Une seconde. Si je peux prendre plus d'une phrase pour expliquer un sujet complexe qui concerne les Français, parce que pour la première fois, la question de l'énergie nucléaire est débattue démocratiquement, contrairement à ce qui se passe depuis 20 ou 30 ans, où toutes les décisions sur le nucléaire ont été prises dans le secret des cabinets ministériels ou des industriels qui avaient des intérêts dans ce secteur. Pour la première fois, nous avons fait débattre au Parlement pour que les représentants du peuple, droite et gauche, choisissent le modèle énergétique.
Mais c'est pour ça que ce que vous avez dit la semaine dernière, c'était du bon sens.
Attendez,
c'est-à-dire ce que vous avez dit.
Laissez-moi terminer.
Non, mais ce que vous avez dit la semaine dernière. Non, parce que les gens n'ont pas compris.
Je vous poserai la question quand j'aurai fini mon raisonnement. Qui est une question. Eh bien, écoutez, je crois qu'au contraire, ne sous-estimez pas l'intelligence des Français. Et moi, c'est le pari que je fais, c'est que les Français sont capables de comprendre sur des sujets aussi essentiels que les sujets énergétiques, ce qui est décidé avec eux et pour eux. Et pour pendant trop longtemps, on a fait ce que vous êtes en train de faire.
Non, parce
monsieur.
Que je pense qu'on
leur a
dit,
c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Laissez ça entre les mains des spécialistes et on va décider pour vous ce qui est bon pour vous. Et bien, ce moment-là est terminé.
Peut-être que ce que les Français ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que vous dites on va fermer certaines centrales, on va en garder d'autres. C'est-à-dire qu'on se dit si le nucléaire est si dangereux, il faut arrêter tout nucléaire. Fessenheim a été sécurisée après l'accident de Fukushima. L'autorité de sûreté nucléaire dit elle peut marcher jusqu'en 2020. Donc en fait, on se dit mais pourquoi en arrêter certaines et pas d'autres ? C'est peut-être ce juste milieu qui est difficile à comprendre.
Oui, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'expliquer. C'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas impossible. Et pendant très longtemps, au nom de cette difficulté-là, on a caché aux Français les décisions, on les a pris à leur insu. Maintenant, on les prend, on met tout sur la table et il y a un débat pendant des heures. J'étais nuit et jour à l'Assemblée
voudrais juste résumer, Madame Royal.
Non, vous me laisserez terminer sur ce sujet très important. Je ne gère pas la question du nucléaire et je suis responsable de l'autorité de sûreté nucléaire en deux phrases pour juste faire des reprises et des choses schématiques.
On peut rappeler d'une phrase ce qui a été voté par le peuple, comme vous dites, par les représentants du peuple, c'est-à-dire un seuil maximal de production d'énergie nucléaire, qui aura pour conséquence, avec l'ouverture de Flamanville, le fait que d'autres centrales ferment. C'est ce qui a été effectivement voté dans la loi de transition énergétique.
Pas du tout.
Et la conséquence, c'est que Fessenheim...
Non, vous trompez. Voilà. C'est pour ça qu'il faut écouter un petit peu. Alors, il y a deux choses qui ont été votées. Effectivement, le plafonnement de la capacité de production d'énergie nucléaire à 63,2 gigawatts. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité qui doit passer de 75 à 50%. Et c'est cette dynamique-là, ce choix national très important. Pourquoi est-ce qu'il est très important ? C'est parce que je veux que nos grands opérateurs énergéticiens, la grande entreprise qui est EDF, puissent investir aussi dans le renouvelable, parce qu'à l'échelle mondiale, figurez-vous, il y aura 1000 fois plus d'investissements dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Et la France fait le choix de rester une puissance nucléaire. 50% de la production d'énergie nucléaire dans l'électricité, ça n'est pas rien. C'est même sans doute le taux le plus élevé. Et en même temps, d'investir dans la nouvelle génération de réacteurs qui pourront recycler par exemple les déchets nucléaires, c'est l'objectif à atteindre, et en même temps de monter très fortement en puissance sur le renouvelable, toutes les formes d'énergie renouvelable, parce que c'est là...
Ségolène Royal,
je finis juste ma phrase, parce que la loi a voté en même temps la production d'un tiers par le renouvelable de l'énergie, 32% exactement, ce qui est considérable, ce qui nous demande un effort considérable. Et nous allons y parvenir grâce à la technologie et aux entreprises françaises qui sont excellentes. Et donc, c'est un juste équilibre. Et pour la première fois, et j'y ai tenu ce débat parlementaire,
la France n'oppose pas les énergies les unes aux autres. Est-ce qu'on peut revenir à la question initiale ?
Madame la ministre, moi qui voulais vous défendre, vous ne m'en donnez pas l'occasion. Parce que la semaine dernière, dernière,
vous privez pas.
La semaine dernière, vous étiez plein de bon sens. Vous disiez, si il y a du retard sur le PER, et on sait qu'il y en a, cette annonce ne sera pas avant 2018, pourquoi fermer une centrale nucléaire précipitamment, ouvrir des centrales à charbon, polluer? Pourquoi, au nom finalement d'une promesse politique et au nom des Verts, aboutir à cette absurdité? C'était ce que vous aviez dit, et vous êtes obligé de vous renier.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Bah, c'est ce que vous
vous avez très mal compris. Je vais vous dire exactement.
Il fallait attendre que Flamanville ouvre pour fermer Fessenheim. C'est ce que vous avez dit.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ah, ben si.
J'ai dit que 2018, c'était la date butoir. Et qu'on n'avait plus le choix. Et par conséquent, plus personne ne pouvait se soustraire à ses responsabilités, puisque la loi imposait au plus tard, lors de l'ouverture de Flamanville,
la fermeture. De dire ce que vous pensez, on
la a bien fermeture compris. De l'équipe.
Non, mais de dire qu'on attendait effectivement que l'EPR ouvre pour fermer Fessenheim.
Mais c'est la date butoir. Mais pour arriver à une fermeture, mais je viens de vous dire, quand on ferme deux réacteurs comme ceux de Fessenheim, il ne suffit pas de tourner un bouton, mais réfléchissez 2 secondes.
Donc ça prendra un peu de temps.
Ça prend des années.
Mais pas du tout. Pour que ça soit effectif en 2018, le processus, il doit démarrer là, en 2016. Pourquoi ? Parce que juridiquement, pour que Flamanville puisse ouvrir, il faut que je prolonge par arrêté ministériel du ministre de l'énergie que je suis l'autorisation de fonctionnement, et donc dans le même temps, pour appliquer la loi, EDF devra me dire quels sont les 2 réacteurs qui ferment, qui sont l'équivalent du réacteur de Flamanville, et cela doit se faire au plus tard au printemps de l'année prochaine. Et par conséquent, pour répondre très concrètement à votre question, Fessenheim est la seule hypothèse qui est sur la table. Ce processus est préparé maintenant depuis 2 ans. Il y a même un délégué interministériel pour travailler à la mutation du territoire, parce que figurez-vous que je veux que les choses soient faites en respect
l'accompagnement
aussi
économique,
des salariés,
des
de l'accompagnement économique, savoir si à la place nous pourrons par exemple créer une industrie.
Alors,
qui fabrique
juste encore une dernière, une toute dernière question, je vous demande une réponse brève, on a encore d'autres dossiers. La droite fait savoir qu'elle reviendra sur cette décision de fermeture de Fessenheim. Vous dites que c'est irréversible. Qu'est-ce qui empêcherait, en cas d'alternance, la droite de revenir sur cette décision?
Ce qui l'en empêcherait, c'est le sens des responsabilités. C'est le sens des responsabilités. Et je ne crois pas du tout que la droite fera cela si par malheur elle arrivait aux responsabilités pour remettre une telle pagaille dans le modèle énergétique français. Pourquoi ? Parce que ce serait porter un coup très très grave aux intérêts d'Électricité de France, une des plus grandes entreprises françaises présentes mondialement. Car aujourd'hui, les entreprises ont besoin de sécurité. Et si on a une telle montée en puissance sur le renouvelable et des investissements industriels aussi rapides, c'est parce qu'enfin, grâce à la loi de transition énergétique française, les entreprises savent exactement dans quel secteur elles peuvent investir, dans quel secteur elles peuvent gagner des parts de marché, dans quel secteur elles peuvent créer de la valeur ajoutée et donc créer des emplois. Et c'est 100 000 emplois qui sont à la clé dans la croissance verte. Et d'ailleurs, demain, je publie les nouvelles aides aux énergies renouvelables et en particulier un système qui va éviter les bulles spéculatives et qui va permettre de sécuriser les investissements des entreprises pour qu'on soit les meilleurs du monde. C'est assez simple. Il y a un marché mondial qui s'ouvre. Il y a la conférence de Paris sur le climat. Tous les pays s'engagent sur la transition énergétique. La Chine, l'Inde, les pays émergents, l'Afrique, la France a une place mondiale à prendre sur ces secteurs-là. Et moi, je pousse les entreprises en avant pour qu'elles elles réussissent et qu'elles créent des activités en France.
Parlons d'un autre projet, la pastille verte, vous l'avez annoncée au printemps. Vous disiez qu'elle sera mise en place en septembre et puis on devra l'afficher. Ce ne sera pas obligatoire en janvier. Elle est prête? On peut la télécharger sur Internet?
Elle sera prête à la fin du mois. De quoi s'agit-il avec la pastille verte? Là aussi, c'est l'application de la loi de transition énergétique pour faire des transports plus propres. De quoi ? C'est-à-dire que la loi donne aujourd'hui le pouvoir au maire de restreindre la circulation,
de faire des zones à circulation alternée.
Donc, pour bien vérifier et que ça ne soit pas arbitraire et injuste avec des systèmes de numéros d'immatriculation pair ou impair, ou parfois les véhicules les plus sales roulaient sans avoir aucun critère de propreté. Aujourd'hui, il y a en effet les calicots de couleurs différentes en fonction de du degré de pollution, c'est-à-dire de la date de mise sur le marché des véhicules.
L'objectif de ces pastilles, c'est d'éliminer les véhicules diesel ?
Non, c'est d'éliminer les véhicules les plus polluants. Et d'ailleurs, l'idée aussi, c'est de faire du positif, puisqu'il y a une prime de 10 000 euros pour tous ceux qui vont acheter une voiture électrique et mettre au rebut les voitures les plus polluantes, c'est-à-dire celles qui ont plus de 14 ans.
On pourra l'imprimer à la fin du mois, c'est ça ?
On pourra l'imprimer à la fin du mois. Probablement le 25 septembre, le jour de la journée nationale de lutte contre la pollution. Elles seront gratuites pendant 6 mois. Elles ne seront pas obligatoires, parce que je ne veux pas l'expérimentation. Je suis très attentive, quand on fait des réformes, à regarder les réactions et ensuite à réajuster rapidement les choses et ensuite à prendre des décisions fermes, claires, qui engagent tout le monde. Elle sera facultative, parce que je ne veux pas d'écologie punitive. Donc je ne veux pas non plus stigmatiser les gens. Pas les moyens tout de suite de changer leur véhicule. Je ne veux pas leur accoler une véhicule, vous avez une voiture sale. Donc, les gens vont avoir intérêt à prendre la vignette quand ils ont une voiture propre, parce que si un jour dans leur ville, il y a la circulation restreinte, seules les voitures les plus propres, ça sera au maire de décider jusqu'à quelle catégorie, à 6 catégories, pour que les choses soient souples. De décider. De même, les autorisations de stationnement gratuit sont désormais autorisées par la loi, c'est-à-dire que les maires ont en main des moyens pour lutter contre la pollution de l'air, qui, je le rappelle, fait quand même plusieurs milliers de décès prématurés par an, et il est temps maintenant de prendre ce problème à bras-le-corps.
Et dans 6 mois, le coût des vignettes, en 6 mois, vous disiez...
Ce sera minime, ce sera le coût de l'impression de la vignette.
À propos des transports, je reviens d'un mot sur la COP21. Vous savez qu'il y a des inquiétudes qui sont liées autour de l'organisation, et Claude Barthelone, comme Anne Hidalgo d'ailleurs, la maire de Paris, ont demandé la gratuité des transports pendant du 30 novembre au 9 décembre, le temps de la conférence, où ce sera évidemment très engorgé. Est-ce que l'État, est-ce que vous, qui avez la tutelle des transports, vous dites, OK, banco, on va aider, on va compenser pour que les transports soient
gratuits. C'est déjà prévu.
Ça n'a pas été annoncé.
Si, parce que ceux qui vont participer, les délégués officiels qui vont participer à ce rassemblement, c'est 40 000 personnes. Je rappelle quand même que lorsqu'il y a eu le salon aéronautique, vous savez combien il y a eu de personnes au salon aéronautique ? 120 000 personnes sur le même site. Donc, ce qui est très important, je pense, c'est que les élus qui sont à la tête des collectivités, qui vont être les premières bénéficiaires de ce rayonnement international, de la présence de visiteurs, des retombées en termes économiques, soient aussi ceux qui mettent en valeur cet événement.
On parle des transports en commun et on parle des usagers, de ceux qui tous les jours prennent les transports en commun.
Mais pas pour les
travailler.
Délégués, pour les mais autres.
Mais ça relève de. Mais pourquoi pas ? Ça relève
Claude
de la
Barthelone
région.
Et Anne Hidalgo demandent à l'État, justement, il est candidat en Île-de-France pour le Parti Socialiste, Claude Barthelone, mais il dit que ce n'est pas la région. Non, mais il dit que ce n'est pas la région. Oui. C'est l'État qui doit compenser et nous aider à rendre les transports gratuits pendant cette période. Vous y êtes favorable ou pas ?
Ça relève de la responsabilité des élus locaux qui devraient ne pas mélanger les rôles et apporter des solutions, se mettre autour de la table. Il y a des personnes qui sont responsables de l'organisation matérielle. Il y a un secrétariat général de l'organisation de la conférence. Toutes les bonnes idées sont bienvenues
mais
et on les regardera.
Vous ne dites pas oui au nom de l'État.
Non, parce que je ne veux pas répondre schématiquement à des questions complexes qui en plus ont un coût. Je n'instrumentalise pas politiquement, comme certains le font, le sujet de la conférence de Paris sur le climat.
C'est-à-dire
c'est tout, j'ai bien d'autres à dire. Et donc, il faut maintenant être sérieux, régler les choses dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt du bon déroulement de cette conférence qui doit être un grand succès.
On revient au transport.
Et qui va apporter beaucoup en termes d'emploi. Regardez tous ces jeunes qui sont là, d'ailleurs, je me permets de le dire, qui sont là en terminale du lycée professionnel, vont être dans les gares, sur le site de la conférence.
D'où leur présence
pour accueillir
dans ce
leurs
studio avec
visiteurs
vous.
Parce qu'ils sont en formation, justement, dans ces métiers du relationnel. Ils vont avoir une formation au ministère de l'Intérieur pour savoir comment on résiste à une pression, comment on résiste à des gens qui vous
pètent, Christophe Jacubizine,
etc. C'est formidable.
Encore une question très concrète qui relève de votre portefeuille, les transports. Le journal du dimanche d'aujourd'hui révèle une enquête de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, qui révèle que 46% des délits devant donner lieu à retrait de points ne sont pas en fait appliqués parce que, pour plein de raisons administratives, les photos des radars qui sont floues, des gens qui ont des passe-droits, plein de choses. On découvre que la moitié des gens qui devraient se voir retirer des points ne sont pas sanctionnés. C'est normal ?
Ah, c'est tout à fait anormal. C'est même très choquant sur le plan de la justice et sur le plan de l'application des lois. Et donc, je suis convaincue que le ministre de l'Intérieur va se saisir de ce rapport à bras-le-corps pour voir où sont les dysfonctionnements. On peut pas à la fois déplorer énormément de victimes dans les accidents de la route et voir qu'il y a de tels dysfonctionnements. Et d'ailleurs, c'est tout le mérite de l'administration et du ministère de l'Intérieur d'avoir demandé ce rapport pour effectivement mettre à plat les choses, les mettre sur la place publique et faire en sorte que les décisions soient prises pour que le dispositif fonctionne.
Vous avez tout à fait raison. Des accidents de la route. Demain seront mis en place 111 nouveaux radars qui peuvent flasher des deux côtés. Est-ce que vous considérez que la réponse à ces chiffres d'accidents en hausse sur la route passe par encore davantage de radars?
Vous savez, hein, je suis sûre que vous connaissez des familles qui ont été décimées par des accidents de la route, des accidentés qui ont maintenant des vies effroyables, des drames humains épouvantables, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Hein, et quand on a ces responsabilités-là face à cette hécatombe, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens pour protéger les automobilistes contre eux-mêmes,
d'une certaine
façon,
contre
les chauffards aussi. Mais pourquoi pas? On ne peut pas à la fois dire que les radars ne fonctionnent pas et dire qu'il ne faut pas de nouveaux. Donc peut-être que les nouveaux radars permettront de régler les problèmes que vous évoquiez à l'instant.
On passe de la voiture aux deux roues.
C'est juste permettre l'application de la loi. Donc c'est assez simple. Une société se donne des règles. Elle doit appliquer ses règles et utiliser les moyens technologiques pour que ces règles soient appliquées et appliquées à tout le monde, sans privilège.
Une précision encore qui intéresse alors ceux qui font du vélo, y compris pour aller travailler tous les jours.
Oui.
La loi de transition que vous avez fait voter prévoit une indemnité kilométrique, à l'exemple, ou en tout cas semblable à celle dont bénéficient les automobilistes pour aller travailler. Mais on n'a pas le montant. On ne sait pas encore de quel montant elle sera. Et elle n'est donc pas encore appliquée. Le décret n'est pas paru. Vous avez des précisions ?
Oui, on est en train d'en discuter. Là aussi, de quoi s'agit-il ? C'est dans tout le paquet de la loi sur les transports propres. Il y a la prime pour les véhicules électriques. Il y a l'obligation pour les entreprises d'avoir des plans de covoiturage. Il y a l'obligation pour les administrations d'acheter des voitures propres, des voitures électriques, des bus
la
de fonctionner,
sur les
etc.
Vélos.
Et il y a cette indemnité kilométrique qui existe dans d'autres pays d'ailleurs, qui a été expérimentée auprès de 8000 salariés. On s'est rendu compte qu'avec une indemnité kilométrique qui équivalait dans cette expérimentation à 25 euros, le nombre de salariés qui sont venus au travail en vélo avec une moyenne de distance de 3,5 km exactement. Oui, c'est précis. Ça a formidablement bien fonctionné.
Donc,
a triplé.
C'est ça ?
Donc, pour l'extension du dispositif qui prend en considération exactement la même chose que ceux qui prennent les transports en commun ou leur voiture, il y a déjà une indemnité transport.
Oui, mais alors justement, pour les vélos.
Moi, je pense que c'est en discussion, mais je pense que ça devrait tourner autour de 15 centimes.
15 centimes, vous arriverez jusqu'à 15 centimes.
Voilà,
par kilomètre effectué.
Voilà.
Allez, encore une toute petite question avant de recevoir Benoît Galeret. Alors là, qui nous amène à la question économique sur les 35 heures. C'est vrai qu'a été voté chez Smart la semaine dernière un accord. Vous l'avez noté, favorable. En tout cas, les salariés sont prononcés en faveur d'un passage aux 39 heures, payé 35, contre le maintien de l'emploi. Est-ce que c'est une préfiguration de ce que vous dites? D'abord, est-ce que vous dites, ça va dans le bon sens, finalement, alors que le gouvernement ne veut pas toucher à la durée légale du temps de travail?
Il y a deux choses, je crois, à dire. La première, c'est que c'est une bonne chose qu'il y ait des débats dans l'entreprise et des accords d'entreprise. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, la consultation a été faite à l'initiative des organisations syndicales. Il y a une très forte participation.
Qui était contre.
Mais c'est bien, les gens s'expriment, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont fait ce choix en contrepartie d'une stabilité de l'emploi, ils ont fait le choix des 39 heures. J'observe toutefois que dans le résultat de cette consultation, les cadres, ils sont beaucoup plus favorables que les ouvriers.
Ah oui,
souvent d'ailleurs
sensible.
Parce que les cadres dépassent leurs heures de travail, etc. Les ouvriers qui ont des tâches beaucoup plus fatigantes et qui sont obligés de pointer sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus réticents. Depuis 2020, ils se demandent est-ce que c'est crédible d'engager la sécurité de l'emploi jusqu'à 2020. Donc, pour me résumer, je pense que c'est une bonne chose. Il faut laisser cette respiration et cette liberté dans l'entreprise, mais il faut que la contribution des actionnaires soit aussi importante, si ce n'est plus que celle des salariés. Et quand il y a un retour, comme on dit, retour à bonne fortune, c'est-à-dire si les entreprises se restabilisent et font à nouveau des profits, que ces profits soient distribués aussi aux salariés et pas seulement aux actionnaires. Et donc, qu'il y ait des règles du jeu.
Écrit d'ailleurs dans l'accord.
Et que ce soit écrit. Qu'il y ait des règles du jeu sur qu'est-ce qui se passe, comment on répartit les bénéfices ainsi déclenchés par l'effort des salariés. Et là, je pense que c'est ça peut être un nouveau modèle économique qui à la fois donne de la souplesse aux entreprises, de l'agilité aux entreprises et en même temps de la sécurité aux salariés.
On accueille Benoît Galeret qui vous a écouté et qui a observé sur les réseaux sociaux quelles étaient les réactions de vos déclarations depuis le début de ce grand jury. Benoît.
Bonjour. Alors, ça commençait plutôt bien puisque vous dites que les Français à propos des migrants sont généreux mais opposés à leur accueil. Alors très bien, vous nous traitez de schizophrène. Merci docteur, dit Soraya. En revanche, Diaoula salue votre appel à surpasser les clivages politiques sur cette question. Elle dit tout à fait d'accord avec vous. La valeur humaine devant la politique, une bonne morale humaine, fait un bon politique. En revanche, d'autres s'étonnent que vous félicitiez Angela Merkel pour avoir géré la crise des réfugiés. Ah bon, c'est déjà réglé, vous demande Praeter. Habib grince que les réfugiés ne sont qu'une main d'œuvre bon marché pour les pays riches et que c'est pour ça qu'Angela Merkel a réagi. D'autres l'accusent d'avoir suivi l'émotion, d'avoir, pour une fois, ne pas avoir écouté son sang-froid, dit Dominique. Fessenheim, là ça réagit aussi énormément, vous dites que c'est très clair et qu'il n'y a pas de polémique, le gru-gru quand même s'étonne, c'est pas vraiment fermé, c'est pas vraiment ouvert, pas vraiment en panne, pas vraiment en marche, c'est plus une centrale, c'est le chat de Schrödinger, vous connaissez peut-être le complexe. Il y a les pro-nucléaires qui s'inquiètent puisqu'ils disent qu'il y a quand même des personnes qui vont se retrouver au chômage, les anti, eux, trouvent que ça ne va pas assez vite, il y a même JP qui dit méchamment, si Ségolène gère le nucléaire comme les Cotax, nous avons du souci à nous faire.
C'est
on a méchant, peur que ça n'aille pas.
Économiser 2 milliards d'euros à la France.
On a peur que ça n'aille pas, on a peur que ça n'aille pas jusqu'au bout, en tout cas. Et quand vous parlez de cette inauguration à Strasbourg de l'usine.
Oui.
D'autres vous font remarquer qu'il y a aussi d'autres chantiers qui ne vont pas dans le sens de la COP21, comme l'incinérateur de Échillais.
Ils ont raison.
Et ils vous demandent de vous opposer à ce permis de construire. Il y a des dizaines de messages dans ce sens-là contre donc cet hyper-incinérateur d'Échillais.
Responsabilité des élus locaux.
Pour ce débrief du grand jury par Benoît Galeret, merci. Une dernière question, Christophe Jacubizi.
Oui, est-ce que un beau succès sur la conférence sur le climat, qu'on appelle COP21, devrait dissuader les Verts de présenter un candidat en 2017 et donc de faire probablement obstacle au passage de François Hollande au second tour.
Écoutez, moi je me suis fixé une règle qui est de ne pas parler des échéances électorales. Pourquoi ? Parce que la responsabilité qui est la mienne dans ce qui m'a été confié, c'est projeter la France à l'horizon 2020-2025. C'est l'horizon de la transition énergétique.
Donc vous enjambez 2017,
l'horizon de la planète. Exactement, parce que j'ai cette responsabilité-là. Et en plus de faire converger des sensibilités politiques diversifiées pour les amener à faire les bonnes stratégies,
mais
à
2017,
mettre en place
vous
les bonnes stratégies
quand même.
Économiques
2017, vous
et énergétiques.
Vous souhaitez que la gauche gagne, vous souhaitez que François Hollande gagne en 2017.
Je me suis fixé cette règle pour pouvoir projeter dans le futur et faire en sorte que la croissance verte devienne irréversible et produise le maximum d'emplois.
Alors l'émission est terminée. Une toute petite question parce que beaucoup s'en sont étonnés. François Hollande ne vous a pas cité pendant sa conférence de presse alors qu'il a longuement abordé le sujet de la COP21. Il a cité Laurent Fabius. Est-ce que vous-même ça vous a étonné ?
Mais pas du tout. C'est une mission gouvernementale. Et nous étions tous là. C'était l'équipe de France de mobilisation, mais qui va bien au-delà du gouvernement. On l'a vu à l'instant, hein. C'est les scientifiques, les entreprises, les territoires, les citoyens, les jeunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de construire un monde meilleur, une planète qui aura la force intellectuelle et qui aura la sagesse de protéger ses énergies et surtout ses espaces naturels.
Ségolène Royal était l'invitée du grand jury. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.